Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Aujourd'hui, c'est Parole d'éditeur, une nouveauté proposée par Radio Présence à tous les auteurs de livres, à tous les auditeurs. Après le métier d'auteur, on vous fait découvrir le métier d'éditeur. Parole d'éditeur, c'est le choix délibéré de donner la parole aux éditeurs indépendants que l'on nomme souvent petits, mais qui font du bien à la littérature. Écoutez bien, vous allez découvrir les coulisses du métier, la manière dont ils vivent la profession, la manière dont ils l'exercent. Ils vous feront part de leurs difficultés, de leurs joies et de leurs succès. Ils partageront avec vous leur vision de l'avenir et leurs ambitions. Pour cette première émission de Parole d'éditeur, nous recevons aujourd'hui les éditions Ozas, établie à Toulouse. J'accueille donc les éditions Ozas, qui sont représentées donc aujourd'hui par Brigitte Chambon, qui est trésorière et par ailleurs autrice d'un album pour enfants, Marie-Christine Gomard, qui est vice-présidente, et Christine Puel, que nous connaissons déjà bien, qui est secrétaire et autrice de 10 ouvrages.
10 ouvrages. Bonjour.
Bonjour à toutes et merci d'être parmi nous. Alors, je salue, avant que nous commencions cette émission, nos fidèles éditeurs, donc à qui j'ai promis du nouveau, du neuf dans cette émission. Alors, je voudrais vous poser une première question, une question qui est peut-être difficile, mais j'aimerais une réponse spontanée. Est-ce qu'être éditeur, c'est un combat aujourd'hui, Christine ?
Absolument, un vrai combat.
Un vrai combat.
Mais en général, on gagne.
Et Brigitte, vous avez partagé le même avis ?
Eh bien, c'est surtout déjà un plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est pas, il y a beaucoup d'éditeurs sur le marché et pouvoir sortir un petit peu du lot, c'est assez compliqué, effectivement.
Voilà, très bien. Et Marie-Christine ?
Oui, la difficulté, c'est aussi de nous faire connaître. Donc, merci pour cette émission et de vendre. Et on n'a pas de distributeur, donc il faut aller au charbon, comme on dit.
Voilà, donc, il faut faire du commerce, il faut faire du marketing.
Oui. Alors que c'est surtout la littérature qui nous intéresse, donc il faut se forcer un petit peu.
Voilà. Alors nous allons y revenir en détail, parce qu'effectivement, on peut se faire une certaine image du métier d'éditeur. Nous avons créé une autre émission, une autre déclinaison de l'émission qui s'appelle Parole de libraire. Et les libraires qui sont venus jusqu'à présent m'ont dit, le premier job du libraire, c'est de transporter des cartons de livres. Donc c'est toujours, on a toujours eu forcément une fausse idée. Alors, pour que nous ayons une idée plus précise, j'aimerais que vous puissiez nous présenter ces éditions Ozas et nous expliquer comment elles sont nées, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de la créer. Christine.
Elles sont nées en 2009 à l'initiative d'un petit groupe qui faisait partie d'un atelier d'écriture et qui a voulu se lancer dans cette aventure parce que c'est une véritable aventure. C'était un peu osé, mais apparemment ça a marché, puisqu'il y a maintenant 16 ans que nous sommes là, et nous avons à peu près publié à peu près 60 titres, plus de 60 titres. Alors, les éditions Ozas, c'est une maison d'édition à deux casquettes. D'abord parce que c'est une association, j'y reviens, et ensuite c'est une maison d'édition. Association avec donc président, vice-présidente, avec secrétaire, avec trésorière, avec les adhérents et surtout des bénévoles. Les bénévoles qui se sont constitués en comité de lecture et qui travaillent, on vous expliquera un peu plus tard, qui travaillent très régulièrement, se réunissent un jeudi par semaine, mais le reste du temps, on a aussi du travail, on vous l'expliquera.
Combien de bénévoles ?
Alors, le comité de lecture comprend 10 personnes, 10 membres, qui ne sont pas nécessairement en présentiel, parce qu'il y en a... Enfin, bon, je préfère laisser... Je continuerai avec Marie-Christine qui vous expliquera, je crois, qui parle du comité de lecture. Voilà. Mais ceci dit, les fonctions de chacun se sont bien déterminées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a une des personnes qui va s'occuper des stocks, qui va faire la lettre info, La lettre info, on en est au numéro 53. Une autre qui va s'occuper de la comptabilité, qui va faire les envois par la poste. Également, il y a encore une autre qui fait le lien avec les auteurs ou les autrices, qui va leur envoyer un récépissé, de leur envoi de tapuscrit et qui ensuite donnera la décision de publier ou non, mais en expliquant pourquoi on ne publie pas.
Oui, il y a donc une part très importante, je dirais, de logistique et une part administrative dans les relations que vous avez avec les auteurs. Juste auparavant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière ? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez créé cette structure à l'initiative de personnes qui étaient dans le même atelier d'écriture. C'était parce que vous aviez des difficultés à trouver un éditeur ?
Ah non, c'est l'envie de se lancer dans une aventure. Pourquoi pas une maison d'édition ? Et ça avait été proposé, en fait, par l'animatrice de l'atelier d'écriture. Et certains membres se sont engagés là-dedans on n'a jamais regretté.
Vous nous avez dit en quelle année vous l'avez
2009.
Fondé ? 2009.
Enfin, elle est apparue officiellement en 2009.
Donc, vous avez déjà un certain recul et une bonne expérience.
Ça fait 16 ans, oui. Donc, c'est... Ouais. On commence à avoir un petit peu une bonne assise quand même, oui.
Très bien. Alors, en publication annuelle, vous publiez combien de nouveaux ouvrages chaque année ?
Chaque année, c'est pas énorme, mais bon, c'est entre 5 et 7 ouvrages chaque année. Entre 5 et 7. Et parce que nous avons donc une grosse qualité ou un gros défaut, comme on voudra, on est un petit peu lent. Hein, du fait que, là aussi on vous le redira, mais qu'on lit tout haut, mot à mot, un ouvrage qu'on a décidé d'éditer. Voilà. On a une ligne éditoriale.
Alors voilà, alors justement, la ligne éditoriale, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste ? Et est-ce que c'est la même ligne éditoriale depuis le début, ou est-ce que c'est une ligne éditoriale qui peut se renouveler d'année en année ?
Elle a été revue, mais en gros, c'est quand même la même ligne, hein. Alors, même si elle a été assouplie ou un petit peu. Nous avons fait le choix d'une maison d'édition associative pour que notre travail soit un plaisir partagé. Nous éditons des romans, des nouvelles, des récits, des contes, des histoires. Les manuscrits reçus sont examinés soigneusement par une équipe aux sensibilités variées. Nous tenons à une collaboration étroite avec l'auteur, même si cela se passe par courriel, pour la meilleure qualité de l'ouvrage. Née en Midi-Pyrénées, les éditions Ozas n'en demeurent pas moins ouvertes au vaste monde. Voilà notre ligne éditoriale.
Voilà, c'est un exposé de votre vocation, finalement.
Absolument.
Alors, de manière plus précise, donc, on parle de ligne éditoriale pour une maison d'édition et on parle de collection. Alors, est-ce que vous êtes organisé en collection ?
Oui.
Et est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu les collections que vous avez mises en place ?
Alors, on a plusieurs collections. Collection Susanna, c'est pour les romans. Collection romans courts, comme le nom l'indique, c'est pour des romans un peu plus courts. Collection Tessel, c'est pour les nouvelles. Collection...
La Mirgue,
pour les à la jeunesse. Collection...
Amélie Mélo.
Ah oui, ça, je vais en parler. Et puis, il y en a une autre, Majolique. Collection Majolique, c'est ce qui n'est pas nouvelles, romans... Voilà.
D'accord.
Et puis surtout, la caractéristique, je crois, l'originalité des éditions Ozias, c'est la collection Méli Mélo. Tous les 18 ans, tous les 18 mois, pardon, à peu près, nous faisons un appel à écriture sur un thème précis. Et toute personne qui a envie d'écrire va nous renvoyer. La seule contrainte, c'est pas plus de 10 000 caractères. Bon, ça fait 4-5 pages à peu près, et le comité de lecture va le lire, va écarter ou non, parce qu'on reçoit beaucoup de réponses et on ne peut pas en faire trop, parce qu'on va publier ensuite un petit recueil, et le recueil contient 30-33 histoires.
Et cet appel à écriture, il se fait par quel canal ?
Alors, par tous les canaux possibles, au sens où ceux qui ont déjà écrit une fois en fait sont très nous pressent de savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Et d'ailleurs, le prochain Méli Mélo, qui sera le numéro 11, le thème sera donné fin juin, pour que les écrivains puissent prendre le temps l'été d'écrire.
D'accord. Voilà. Dans les collections dont vous avez parlé, est-ce qu'il y en a une qui se distingue par son importance ou est-ce qu'elles sont toutes à peu près équilibrées en termes d'ouvrages édités?
C'est plutôt les romans, mais la jeunesse, elle court maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'on en a de plus en plus, avec une caractéristique, c'est que pour certains, c'est en trilingue. Donc pour les petits, pour les tout-petits, il y aura espagnol, anglais et bien sûr français.
Alors, est-ce que le roman est quelque chose de plus facile à vendre que les autres types d'ouvrages?
Les nouvelles, c'est assez difficile.
Les nouvelles, c'est difficile?
C'est difficile, oui. Les lecteurs français ne sont pas vraiment...
C'est pas dans la culture française?
Oui, pas encore.
Pas encore. qu'est-ce qui se vend le mieux?
Ben c'est, ce qui se vend le mieux, c'est ce qui est vendu par l'auteur ou l'autrice. C'est-à-dire que vraiment chaque auteur ou chaque autrice a cette mission d'essayer de vendre, enfin de par les salons ou par autre biais. Mais je pense que, puisque nous manquons un peu de distributeurs, c'est sûr.
Et au vu des ventes que vous avez réalisées, est-ce que vous pouvez caractériser une vente en disant... Par type d'ouvrage, c'est-à-dire finalement nous chez Ozas, on vend beaucoup de romans, c'est plus facile à écouler, ou c'est la littérature pour les jeunes, par exemple.
Non, je pense que c'est les romans, c'est quand même les romans.
C'est les romans. Oui.
Les romans.
D'accord. Et alors cet appel à écriture, ça se passe donc tous les 18 mois, c'est ça?
À peu près, oui.
À peu près.
Parce que c'est un gros travail après pour pouvoir les lire, les relire, les corriger, le va-et-vient avec l'auteur. Donc ça nous prend presque une année.
Ouais, presque une année. Et vous avez beaucoup de personnes qui répondent.
Oui.
À peu près combien?
On va en garder que 30, 33, et la dernière fois, c'était secret, et on en a refusé une bonne dizaine.
D'accord.
En espérant que les auteurs vont réitérer pour le prochain thème.
D'accord. Vous avez toujours les mêmes renouvelle?
Non, pas toujours. On a des nouveaux, mais comme c'est anonymisé, le comité de lecture ne sait pas qui...
Fait à l'aveugle.
Qui a envoyé.
Ah, oui, d'accord.
Donc, on reste vraiment... Parce que parmi nous, il y en a même qui ont envoyé et qui n'ont pas été acceptés, en quelque sorte. Quand je dis parmi nous, c'est le comité de lecture, parmi les comités de lecture.
Oui, d'accord. Alors, je voudrais vous poser une question. Donc, vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'était, cette maison d'édition avait une structure d'association. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette structure d'association? Est-ce que c'est un moyen qui est facilitant pour créer et faire fonctionner une maison d'édition? Ou est-ce que derrière, vous aviez plutôt une aspiration, j'allais dire entre guillemets, idéologique ou sociale, en disant on crée plutôt une association qu'une société?
Non, je pense que c'est par le biais du bénévolat. C'est-à-dire que tous sont bénévoles à la maison des éditions Ozas. Et donc, les seuls frais que nous avons, c'est l'imprimerie, puis après les timbres, etc. Mais voilà. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut fonctionner que par le bénévolat quand on désire rester une petite maison d'édition. On ne cherche pas à... Alors, si un jour le succès vient, ça on verra. Mais, enfin, le grand succès. Mais ça nous convient. Ça nous convient pour tous les bénévoles. Je crois qu'on est content de... on arrive à éditer, on arrive à tenir et à tenir bien quand même. Et donc, ça nous satisfait. Enfin, on ne cherche pas à devenir gros.
D'accord, c'est quelque chose qui vous convient. Donc, si j'ai bien compris, à peu près une soixantaine de titres offerts. Vous avez, pour l'année qui vient, un objectif d'augmentation particulier. Où est-ce que vous
en
êtes?
On a eu un grand échéancier. Et là, le dernier tapuscrit pour lequel on a dit on allait le recevoir, il est en 7e position, ce qui signifie qu'on a encore 6 avant d'arriver à celui-ci. Donc, on travaille avec nos petits moyens, mais... Il faut savoir attendre. On le dit bien aux auteurs. Hein. On va vous publier, mais sachez que ça va prendre du temps parce qu'on a vraiment un gros calendrier.
D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces informations. Je vous propose de faire une petite pause musicale.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Je vous rappelle que vous êtes en train d'écouter la première émission de Parole d'éditeur, au cours de laquelle nous avons le plaisir de recevoir les éditions Ozas, en présence de Brigitte Chambon, Marie-Christine Gomard et Christine Puel. Alors, nous avons demandé aux éditions Ozas de profiter de leur visite pour nous amener quelques ouvrages dont elles vont essayer de nous vanter les mérites. Alors, il y a un premier ouvrage que vous avez amené qui s'appelle « Toine des Jonques » de Philippe Lebrun. Alors, Marie-Christine, vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, et ce que j'aimerais bien surtout, c'est que vous nous disiez quel est l'argument massu qui a fait que vous avez dit celui-là, on va le publier.
Oui, bien sûr. Toine des Jonques, et le sous-titre est Embrouille sur la 69. Et le chantier de la 69 avance, des fois il recule. En tout cas, il contrarie beaucoup de gens, les écologistes en partie, à cause de la flore et de la faune qui sont perturbées par les travaux, par l'assèchement des marais, tout ça. Et puis, il y a d'autres personnages qui sont dérangés par la construction de ce chantier, de cette autoroute. Ce sont les entités qui vivent sous terre et qui vivent là depuis fort longtemps. Entre autres, Toine des Jonques, qui habite là depuis le XVIIe siècle et qui n'est pas très content qu'on vienne perturber son environnement. Alors, avec l'aide de deux autres fantômes, ils vont essayer de créer des situations qui vont perturber l'avancée du chantier. Et voilà, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont y arriver ?
Alors, vous aiguisez notre curiosité. On a envie de vous poser la question, mais que sont donc ces entités ? Mais je vous demande surtout de ne pas répondre pour maintenir le suspense.
Donc je ne réponds pas.
Et donc, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre ?
Déjà, ce qui nous a interpellés, c'est le titre, la 69, parce que c'était en pleine actualité. C'était au moment où se tenaient au palais de justice de Toulouse les procès, enfin les attentes. Ensuite, parce que c'est un roman donc, local et on aime bien aussi intéresser notre public toulousain et plus large, Occitanie, on va dire. Et puis, on a découvert aussi que c'était un récit où il y avait du suspense et de l'humour, beaucoup d'humour. Donc, voilà pourquoi on s'est décidé. Le roman le tapuscrit à l'époque était bien écrit. Le sujet nous a séduit et quand on a l'unanimité du comité de lecture, on n'hésite pas, on y va, on publie.
Il s'agit d'un premier ouvrage ?
Oui, l'auteur a écrit d'autres choses, mais qui n'ont pas été. Qu'il a publié à compte d'auteur. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, mais des fois que pour lui ou pour ses amis. Quoi.
Et donc, vous l'avez fait paraître cette année ?
Non, il y a deux ans, je crois.
Il y a deux ans.
Toine des Jonques, c'était il y a deux ans.
Et est-ce que je peux vous demander une petite appréciation sur le succès des ventes ?
Ça, on va demander à ma collègue, c'est elle qui suit ces choses-là de plus près.
Ouais, alors bon, malheureusement, ça ne s'est pas aussi bien vendu qu'on l'aurait espéré. Peut-être que les gens pensent que c'est trop proche de ce qui se passait avec les conflits, mais ils n'ont pas été regardés au-delà en fait du roman, parce qu'on n'est pas que sur le conflit d'une autoroute qu'on construit, c'est autre chose. Après, comme je dis toujours, le meilleur vendeur, ça reste malgré tout l'auteur, qui lui peut vendre un petit peu son oui. bébé. Quoi. Alors bon, peut-être que l'auteur n'a peut-être pas aussi été au-delà de son roman.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'ai eu un petit peu le même cheminement. Mais je me suis dit, il ne faut pas s'arrêter à ça, en disant qu'effectivement, a priori, on s'est dit, c'est peut-être un peu trop près de l'actualité, les choses ne sont pas encore stabilisées, etc. Mais on sent après, notamment dans vos explications, qu'il y a d'autres choses souterraines.
Hein, tout à fait.
Souterraines, exactement.
Voilà, donc nous incitons beaucoup les auditeurs à faire les curieux, effectivement.
Oui, donc qu'on traverse deux périodes, l'actualité, mais aussi on remonte dans les siècles précédents, on apprend des histoires de vie, en particulier celle de Toine des Jonques, qui n'a pas été une vie facile, la vie paysanne de l'époque. Et, et des drames familiaux. Donc, il y a plusieurs histoires dans l'histoire.
Plusieurs histoires dans l'histoire. C'est un roman et ce n'est pas un manifeste écologique de militantisme.
Non,
écologique.
Ce n'est pas du militantisme.
C'est, au-delà de ça. Bien, donc, vous rappelez le titre, s'il vous plaît.
Toine des Jonques ou Embrouille sur la 69.
De Philippe Lebrun.
Voilà. C'est un auteur originaire de Castres.
Parfait. Merci beaucoup, c'est noté. Alors Marie-Christine, il y a d'autres fonctions que celles qu'a évoquées Christine dans la maison d'édition Ozas, notamment tout ce qui est lié à l'administratif, donc, et surtout à la publication des ouvrages. Vous, en préparant cette émission, j'avais compris qu'il y avait des décisions inhérentes à la publication à prendre. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces décisions? En quoi elles consistent?
Eh bien, elles consistent tout d'abord à lire les tapuscrits que nous recevons. Et ça, on le fait individuellement, chez nous, pendant la semaine. Et à partir de là, se dégage une opinion, déjà, le jeudi suivant, puisqu'on travaille surtout, on travaille essentiellement tous ensemble le jeudi suivant, le matin. On fait le point sur ce qu'on a lu, sur ce qui nous a plu et ce qui ne nous a pas plu aussi. Donc les décisions se prennent à partir de cette confrontation des lectures qu'on a faites. Et on a aussi un personnage très important dans notre comité de lecture qui n'est pas présent le jeudi parce qu'elle habite loin, pour d'autres différentes raisons, et qui est là presque, on va pas dire la première lecture parce qu'elle le lit en même temps que nous, mais très vite, elle rédige une fiche d'analyse qui va nous permettre de renforcer notre décision. Parce que c'est pas elle qui prend la décision, mais à la lecture de sa fiche, on dit oui, effectivement, ça c'est positif, elle a le même ressenti que nous, c'est bon, on va la suivre ou pas.
D'accord. Alors on va revenir un petit peu plus tard sur le fonctionnement du comité de lecture et sa méthode. Alors, j'allais dire presque original, qui rappellera des souvenirs aux personnes qui sont férues de littérature. Vous gérez aussi les rencontres avec les auteurs, le suivi de la relation.
Oui, voilà. C'est moi qui m'en charge essentiellement. Donc, quand on reçoit un tapuscrit, j'envoie un accusé de réception disant qu'on l'a bien reçu, qu'on va le lire et qu'on va tenir l'auteur au courant de notre décision. Et une fois qu'on a pris notre décision, deuxième courrier, alors là c'est le bonheur, on dit oui ou on dit non. Mais on essaie toujours dans nos réponses de ne pas décourager l'auteur, de lui dire qu'il y avait des très bonnes choses, qu'on a aimé cela, mais que bon, soit ça n'entre pas dans notre ligne éditoriale, soit il y a des choses qui nous ont gênées.
Donc c'est quelque chose de délicat quand même.
C'est quelque chose de délicat, mais moi que je fais avec plaisir, d'autant plus que même quand on dit non, les auteurs nous répondent et nous remercient. Donc ça, vous m'avez dit non, mais il y a des merci parce que vous avez quand même vu le positif dans mon travail.
Bon, ça prouve que vous faites bien le job.
Espérons.
Bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer au second livre avec Brigitte. Alors, ce livre s'appelle, le titre est Arthurine Ombreval, première enquête de Sarah Jam.
Voilà. Donc, Sarah, c'est une jeune femme qui nous a envoyé donc son tapuscrit. Et donc, on a un petit peu tous eu le coup de cœur pour elle. Et nous l'avons publié, c'est son premier roman, donc en janvier 2026. Donc il est tout frais et on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour cet ouvrage et je pense que je vais essayer de le pousser vraiment, vraiment en avant parce qu'il est vraiment très intéressant. En fait, Arthurine, son héroïne, elle rêve de devenir détective et elle nous transporte dans une enquête qui l'amènera entre le Petit Palais de Paris et les terres d'Écosse. Donc, c'est lors de l'ouverture de l'exposition consacrée à Diego Velázquez et la présentation de la Vénus au miroir que Arthurine va pouvoir mettre en pratique ses ambitions de devenir enquêtrice. Et comme c'est une jeune femme qui était têtue, maligne et futée, elle laissera rien au hasard pour mener à bien son investigation. Donc, voilà, avec ce premier roman, on espère de toucher les lecteurs et les lectrices.
Alors, c'est également un premier roman.
Pour Sarah James, oui.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Pour quelle raison vous avez dit cette personne, il faut qu'on la publie?
Alors, moi, déjà, j'aime bien tout ce qui est roman policier. Donc aussi comme Sarah. Et en fait, donc c'est cette jeune femme qui a nous présenté cette jeune femme qui est finalement très pétillante, très jolie, têtue. Et on sent que, bon voilà, elle va mener son enquête, qu'elle va fouiner et elle va nous faire découvrir plein de choses. Et c'est vrai que le thème de faire son enquête sur Diego Velázquez et la présentation de la Vénus au miroir, ça sort un petit peu de l'ordinaire.
C'est quelque chose donc qui se distingue des autres livres que vous éditez.
Voilà.
Et j'en profite pour vous poser la question. Le pourcentage dans les romans que vous publiez, le pourcentage de romans policiers, c'est important?
On en a quatre romans policiers.
Oui.
Par roman policier, des vrais romans policiers,
oui,
c'est-à-dire
oui.
qu'il y a une mort et on cherche quel est l'auteur,
oui.
quel est... Voilà. Donc, il n'y en a pas énormément, mais c'est
quatre
comme
dans tout
dans
ce que
tous,
vous avez
oui.
disponible.
Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Donc, il y en a relativement peu dans le genre
oui,
policier.
Mais ce n'est pas un refus de notre part, c'est que les tapuscrits qui nous sont envoyés ne sont pas policiers, quoi.
Ouais.
Voilà, mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce que moi, je vois quand... je suis sollicité sur des ouvrages, il y a une grande quantité de romans policiers.
Oui,
hein.
oui.
Là, en fait, on marche au coup de cœur, quoi. En fait, quand on reçoit un tapuscrit, qu'on le lit, peu importe l'histoire, si c'est bien écrit, si on rentre dans le roman, voilà, si on a ce coup de cœur, on se dit, oui, c'est bon, on sent que...
Oui, oui, j'entends bien, on peut avoir d'autres critères que le roman policier,
tout à
oui,
fait.
Absolument. Oui,
fait.
Oui. Oui, Christine.
Si je peux. Pour les amateurs de bande dessinée, Arthurine fait penser à Adèle Blanc-Sec. Voilà. Donc,
d'accord.
J'en dis pas plus. Soit on connaît, soit on connaît pas. Mais en lisant le texte, enfin, l'atmosphère ressort exactement. C'est bien Adèle Blanc-Sec.
Voilà. Et vous en avez parlé avec l'auteur de ce rapprochement?
Oui.
Et
oui.
La réponse, c'était quoi?
Elle a dit, ben oui, peut-être. Enfin, c'était pas oh non, non, non. Oui, mais vraiment, en lisant à travers les phrases, on retrouve Adèle Blanc-Sec. C'est rigolo.
Ah oui, donc c'est le hasard, presque. Hein? Concours de circonstances. Bien, merci beaucoup. Juste avant de passer à notre seconde pause musicale, en préparant l'émission, j'ai cru comprendre que vous aviez recours à des stagiaires.
Ah oui.
En plus des bénévoles. Alors, comment ça fonctionne avec ces stagiaires?
Alors, ça fonctionne tout simplement, ça a commencé par des courriers de jeunes étudiantes. Je dis jeunes étudiantes parce que je crois que sur toutes les demandes, on a eu un garçon, deux peut-être, mais c'est des filles en général qui demandent. Des étudiantes qui veulent se diriger vers les métiers de l'édition, qui nous demandent à venir en stage chez nous, ça fait partie de leur cursus. Alors souvent, on dit non, parce que ce sont des stages de 3, 4 ou 5 semaines, mais... tous les jours, toute la semaine. Ça, on ne peut pas. Par contre, il y a des étudiantes qui sont dans un cursus, souvent des lettres ou des choses comme ça, qui ont un stage de 35 heures à faire. Donc 35 heures, ça ne pose pas de problème parce qu'on peut le découper en autant de jeudis.
Ah,
et
oui.
Donc, elles nous suivent pendant 6 ou 7 semaines, ce qui fait qu'elles peuvent suivre tout le processus. Le processus en entier, mais une bonne partie de nos travaux, et même participer à des activités comme nous aider à choisir la couverture, voire à la réaliser. C'est arrivé. Quoi d'autre?
Les affiches.
Oui, les affiches d'invitation.
Les invitations. Oui.
Les invitations quand on fait des salons ou quand on organise des fêtes.
Donc elles peuvent participer de manière très concrète.
Tout à fait.
Et elles sont dans le comité de lecture et elles participent comme nous à la lecture à voix haute et aux corrections.
Alors vous disiez tout à l'heure, c'est surtout des stagiaires, des femmes qui...
Oui.
Quelle est la répartition homme-femme au sein des éditions ZAS?
Ah, on a deux hommes. Hein?
On a deux hommes. Sur les 10 du comité de lecture, on a deux hommes et qui sont très très performants.
En plus scientifiques.
Ah oui, en plus on est scientifique.
Donc c'est très utile parce qu'il faut être cohérent.
Oui.
Ah d'accord.
Donc, l'auteur qui n'est pas cohérent, il a du mal.
De temps en temps,
ils sont les garants
ça,
de la cohérence.
Voilà, c'est
d'accord.
ça.
Bien, mesdames, je vous propose de passer à notre deuxième pause musicale en compagnie de Francis Cabrel.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Malgré ça, j'arrive à t'oublier. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie des éditions Osas qui nous expliquent leur manière de fonctionner et qui nous ont présenté déjà deux de leurs coups de cœur qui ont donc été publiés. Alors je voudrais que nous revenions un instant sur le... j'allais dire votre core business, c'est-à-dire la manière dont vous choisissez les ouvrages. Et si j'ai bien compris, tout se passe au niveau d'un organisme très très important qui s'appelle le comité de lecture. Alors comment fonctionne-t-il et rappelez-nous de qui il est composé?
Alors, il est composé de 10 personnes, c'est vrai que 8 femmes et 2 hommes. La parité n'est pas tout à fait respectée. Et je ne sais plus la question.
comment vous faites le comité fait, voilà. Comment il effectue ses travaux?
Voilà, alors, la première tâche, c'est qu'il reçoit les tapuscrits et qu'il les lit individuellement dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent l'arrivée du tapuscrit. On décide, oui ou non, de publier. Et quand on a décidé de publier, on... Bon, il y a l'histoire du contrat qu'on signe avec l'auteur, bien évidemment. Et là, on se met à tous les jeudis. Donc, ça se passe le jeudi après-midi essentiellement. Le jeudi après-midi est consacré à la lecture à voix haute. Donc, chacun d'entre nous lit des passages à voix haute et les autres réagissent. Ah oui, mais là, cette phrase-là, elle ne sonne pas très bien. On pourrait peut-être la remettre autrement. Ce mot-là, il est répété. On faudrait peut-être suggérer à l'auteur qu'il trouve un autre mot.
Alors, c'est à voix haute, vous choisissez des passages, vous faites
non,
la lecture.
On lit tout.
Vous lisez tout.
On lit tout, le tapuscrit, parce que c'était encore un tapuscrit à ce moment-là.
Et on corrige.
Oui.
Il corrige.
Voilà.
Et vous faites la correction en même temps.
Voilà.
D'accord.
Alors, la correction est notée, pas généralement, tout le temps par Christine, qui a adopté des codes de couleur pour que l'auteur s'y retrouve. Il y a des choses qu'on voudrait qu'elle supprime. On suggère toujours.
Ah oui, vous êtes dans une démarche où vous notez les suggestions que vous allez transmettre à l'auteur,
oui,
c'est ça?
Oui.
Et il va falloir que vous récoltiez son approbation.
Oui, exact.
D'accord. Alors, dans le cas où vous faites un certain nombre de suggestions et puis que l'auteur il dit non, je suis pas trop d'accord, etc., qu'est-ce qui se passe?
Alors, si c'est des suggestions d'orthographe, de grammaire ou de style, là,
c'est rédhibitoire.
Il faut dire oui. Il faut qu'il dise oui. Quand c'est des histoires de choix de mots, là, effectivement, il peut rester sur sa première idée et on accepte. Généralement,
si
on accepte.
Si malgré tout.
Mais c'est rare, finalement.
C'est rare. Oui. Ils acceptent ces suggestions.
Ah oui, oui. Oui. Et les accueillent souvent avec plaisir. Ah, merci, c'est beaucoup mieux, ça me plaît, etc.
Bon.
Donc ça, c'est le travail du jeudi après-midi. Et c'est un travail qui nous passionne. La lecture
mais qui prend beaucoup de temps.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Ça vous prend combien de temps,
Ça dépend de la grosseur du tapuscrit, mais on peut passer plusieurs mois, puisque c'est un jeudi après l'autre. Donc, 4, 5, 6 ou plus même, peut-être 10 jeudis de suite, où on va corriger, mais vraiment, on reprend tout.
Ça dépend de l'épaisseur du tapuscrit, ça dépend aussi de la qualité de l'écrit. S'il y a très peu de fautes, très peu de choses à faire, on avance vite. S'il y a beaucoup de choses à revoir, on prend plus de temps.
J'aime bien quand même mettre du jaune, du rouge, du vert.
Voilà, ça devient
un
ouvrage colorié
voilà.
Ou coloré.
Alors, toutes les semaines, on envoie la partie qu'on a faite à l'auteur, qui en fait ce qu'il veut. Il ne nous renvoie pas tout de suite, on lui demande de nous le renvoyer quand il aura tout vu, tout corrigé.
D'accord, et vous lui envoyez morceau par morceau, en fonction de l'avancement des travaux, c'est ça?
Comme ça, quand il le reçoit, il peut le faire petit à petit aussi, lui.
Et à la fin aussi, quand il nous renvoie toutes les corrections qu'il a faites, on doit comparer entre ce qu'on lui a proposé et ce qu'il maintient ou ce qu'il a changé. Donc là aussi, ça prend plusieurs jeudis de suite.
D'accord.
On relit.
Donc nous notons avec intérêt cette méthode de lecture à haute voix du comité de lecture pour sélectionner finalement les ouvrages. Bien, merci beaucoup. Je vous propose maintenant que nous voyons de près avec Brigitte j'allais dire l'aspect marketing en disant maintenant comment fonctionnez-vous, quels sont vos canaux de distribution, quelles sont vos relations avec les libraires et le recours à d'autres moyens tels que les salons du livre et je crois le réseau des auteurs.
Voilà. Bon, déjà il faut savoir aussi qu'il y a les stocks à stocker. Ça c'est aussi du travail et on a des suivis par rapport à notre quantité d'ouvrages qu'on édite. Alors, pour la distribution, on a déjà ce qu'on préfère, c'est notre site des éditions OSAS. On pourra vous redonner le site plus tard.
On peut le donner tout de suite. Voilà. C'est donc www.edition-osas.fr.
Voilà, là, vous allez retrouver tous nos ouvrages, la quantité de stock disponible, et puis les auteurs, les petits mémos sur l'auteur, et puis un petit peu aussi la récapitulation de l'ouvrage. Donc sur ce site, on peut passer commande et on paye. Donc on peut payer aussi sur le site. À la suite de ça, moi j'ai une information et je me charge de faire les envois auprès des gens qui ont commandé. Ensuite, on s'est inscrit sur le site diffuseur qui s'appelle Dilicom, qui nous permet.
Pardon, parce qu'il faut donc préciser à nos éditeurs qu'effectivement, il existe en France, dans l'organisation de l'édition, de grosses maisons que sont les diffuseurs, et que hors des diffuseurs, c'est souvent difficile de vivre.
C'est ça. Et en étant inscrit donc sur ce site d'Ilicom, ça permet d'être visible sur les différents sites qu'on peut voir. On ne va peut-être pas les nommer, je ne sais pas, on ne les nommera pas, mais au moins aussi chez tous les libraires. C'est-à-dire que voilà, si vous allez chez n'importe quel libraire et vous demandez le titre, le libraire est à même de savoir où. Et ensuite, Dilicom nous envoie l'information et à la suite de ça, pareil, je me charge de faire l'envoi de l'ouvrage.
Et alors, j'ai cru comprendre que vous fonctionnez aussi avec les libraires, mais que vous fonctionnez d'une manière particulière.
Oui.
Vous pourriez nous l'expliquer?
Oui, alors ça, le libraire, on a créé des liens un petit peu sympathiques avec nos libraires un petit peu autour de chez nous, et on leur fait des dépôts. Nous, on a trouvé que c'était une bonne chose pour eux parce que ça leur évite de sortir de la trésorerie. Parce que les temps sont durs pour tout le monde. Donc plutôt que de leur dire on vend, après ils n'ont pas vendu, ils n'ont peut-être plus envie de travailler avec nous, on préfère déposer l'ouvrage. S'ils vendent l'ouvrage, à ce moment-là, on se charge entre nous de faire la facturation et autres. Et donc ça, c'est une bonne chose pour eux et puis pour nous aussi, parce que c'est vrai que de travailler avec notre petit libraire du coin, c'est quand même plutôt sympathique.
Surtout que quand on sait effectivement que les libraires se plaignent souvent effectivement des grosses maisons d'édition qui leur imposent des quantités qui finalement font des va-et-vient.
Du transport, parce que nous, on travaille à côté de chez nous et puis on a l'habitude. Et puis après, il nous reste aussi, moi ce que j'aime beaucoup aussi faire, c'est soit les salons ou les marchés de Noël. Parce que là, ce qui est sympathique, c'est que on rencontre le public en fait. Et il y a des gens qui viennent nous voir, qui n'achètent rien, mais ça permet aussi de nous faire connaître. Et souvent, on a eu des retours justement, des gens qui nous ont proposé des tapuscrits suite au salon qu'on a pu faire. Et puis après, les gens aussi ont des coups de cœur sur nos ouvrages et on arrive aussi à vendre des ouvrages grâce au salon.
Et les salons du livre, c'est plus efficace pour trouver de nouveaux écrivains ou pour vendre les œuvres des écrivains?
Pour vendre quand même,
vendre.
Oui. Quand on fait des salons, on arrive à vendre. Et puis on présente toute notre collection. Alors les gens peuvent partir sur des choses qu'ils n'avaient pas complètement choisies. Et puis ce qui est agréable aussi, comme j'ai eu la dernière fois sur mon salon, une dame qui repassait par là et qui dit à une autre dame, je l'ai acheté, prenez-le, elle était vraiment extraordinaire.
D'accord. Et alors donc, le dernier des moyens, peut-être pas le dernier des moyens pour vendre, c'est ce que vous citiez, le réseau des auteurs, en disant qu'effectivement, c'était presque de la responsabilité ou du ressort des auteurs de faire le maximum pour parler autour d'eux de leur ouvrage.
Bien sûr, je pense que l'auteur, ça reste le meilleur vendeur, parce que c'est son bébé quand même quelque part, et puis il a envie que son ouvrage passe de main en main. Et puis lui aussi, ça lui permet, parce qu'on n'a pas que des auteurs dans la région, peut-être des auteurs, notamment on en a un qui était en Espagne, lui de pouvoir aussi promouvoir son livre sur des... Ou dans des salons, ou même, par exemple, faire des dédicaces chez des libraires dans d'autres régions que nous, on n'a pas forcément accès.
D'accord. Bien, Brigitte, merci beaucoup pour ces informations précieuses sur le marketing. Alors, je voudrais que nous passions au troisième livre avec Christine, qui s'appelle « Récits de vie romancés 2 », donc de Christine Puel, qui va pouvoir en parler en connaissance de cause. Donc
« Récits de vie romancés 2 », ce qui signifie qu'il y a un tome 1. Pour le tome 2, j'ai procédé. C'est lorsque je travaillais, je recevais des personnes, hommes, femmes, couples, qui venaient pour des gros problèmes familiaux, etc. Et ils me racontaient un petit peu leur vie. Et je les gardais pendant une heure. J'essayais de répondre, bien sûr, à leurs questions, toujours dans le respect. Et puis, ils avaient la plupart du temps de gros problèmes. Et... une fois qu'ils étaient partis, je prenais vraiment 2 minutes pour écrire quelques 10 lignes et j'avais des cahiers et des cahiers. Et donc, un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je les ai relus et c'est vrai que me sont revenus en mémoire la plupart des personnes. Et à partir de là, mon imagination est intervenue et j'ai écrit leur vie supposée, mais il ne faut pas essayer de retrouver la réalité. C'est vraiment de la fiction que j'ai fait. C'est pour ça que
c'est possible d'ailleurs ou pas? Ça serait possible?
Au vu
des détails que vous donnez.
Après, quand j'écris donc ce récit de vie, c'est un récit de vie, mais romancé, donc le roman, j'ai fait intervenir, j'ai créé autour de ces personnes le mari ou la femme, la tante, la sœur, la fille, le fils, etc. Donc j'ai créé tout un monde. Alors, peut-être que certaines choses, j'espère, parce que souvent ça se termine bien quand même, donc j'espère que ça s'est approché de la réalité.
Vous n'avez pas eu de réclamation jusqu'à présent?
Jamais.
D'accord.
Et alors voilà, donc dans ce récit de vie romancé 2, j'ai 3 histoires, je raconte 3 histoires, donc
Peut-on arriver à quitter la prostitution quand on exerce cette activité depuis plus de 15 ans? Une autre, aider une ancienne amie en hébergeant son fils, est-ce que c'est une bonne idée? On peut imaginer ce qui s'est passé. Et enfin, à quoi s'engage-t-on en vivant avec un homme qui ne sait pas résister à l'alcool, bien qu'il dise « mais je ne suis pas alcoolique ». Mais enfin, bon, il ne sait pas résister.
Trois sujets très lourds.
Oui, bah, la plupart des entrevues que j'avais, des entretiens que j'avais, c'était du lourd.
Alors, dites-moi, Christine, j'ai envie de vous poser la même question que j'ai posée à vos collègues. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce livre au comité de lecture?
Ben, je crois que mes collègues...
Oui, c'est à nous qu'il faudra poser la question.
Oui.
On trouve que Christine écrit très très bien.
Déjà.
Et en fait, c'est vrai qu'elle a aussi tellement de choses à nous raconter qu'on a envie de tout savoir.
Oui,
donc en écrivant, ça nous permet de nous pouvoir entrer un petit peu dans ce monde qu'elle a vécu.
On a été très touchés par les histoires qu'elle a racontées. Et voilà, ça a été évident que oui, on allait la publier.
Bon, c'est parfait. Bien, merci, nous souhaitons longue vie à cet ouvrage, Récit de vie romancé 2. Alors maintenant, avant de nous quitter, parlons un petit peu d'avenir. Comment vous voyez l'avenir de cette merveilleuse maison d'édition aux As, sachant, comme vous le rappeliez Christine tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de mortalité parmi les maisons d'édition, et vous, éditions aux As, vous êtes toujours là. Alors comment faites-vous, et est-ce que vous avez un plan particulier pour l'avenir?
Déjà, nous, ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'on est dans une ambiance familiale. Donc, en fait, on est quand même soudés par notre amitié ou autre.
Sans être ni frère ni sœur.
Voilà, tout
d'accord.
À fait.
Alors, vous êtes soudés. Mais bon, c'est sûr que ça donne... c'est un point positif. Un autre point positif pour résister à la concurrence?
Mais en fait, notre but, ce n'est pas de faire de l'argent. Notre but, c'est de se faire plaisir. Donc, c'est vrai qu'on travaille... On est petit, enfin, entre guillemets, on est petit, mais on fait nos petites choses tranquillement. Mais finalement, on est peut-être des petites fourmis, en fait. On travaille tranquillement, mais sûrement. Et ce qui permet de continuer. Et puis, en plus, comme on a toujours dit, c'est que nous sommes que des bénévoles. Donc, en étant bénévole, financièrement, ça aide.
Voilà, c'est une force. Oui, ouais. Christine.
Moi, je voudrais juste rajouter qu'on travaille aussi donc, avec l'imprimeur. On a trouvé un imprimeur très fiable, très rapide. Et que c'est lui-même qui nous dit « Oh là là, mais n'en imprimez pas trop à la fois, il vaut mieux faire ce qu'on fait souvent, d'ailleurs maintenant, rééditer, parce que, quand une personne vient d'écrire quelque chose, en mettant en auto-édition et qu'elle veut publier, elle demande tout de suite 1 000, 2 000 exemplaires, c'est pas possible, enfin, allons-y petitement. Quand tu parles de fourmis, moi je parlerais de tortues, on avance, mine de rien, mais on construit,
et
on fait.
Et vous faites le chemin. Bien, mesdames, je vous remercie beaucoup de nous avoir expliqué la vie d'une maison d'édition. Je précise aux auditeurs que vous êtes tout à fait ouverte à ce que des bénévoles viennent renforcer votre équipe. Donc je conseille à tous nos auditeurs, d'une part, de consulter votre site www.edition-osas.fr.
Singulier.
Édition sans S.
C'est démarré comme ça.
Oui. Et... vous pouvez donc regarder les livres qui sont proposés. Et s'il y a des auteurs potentiels qui nous écoutent...
Il y a une partie contact où ils peuvent nous écrire.
Alors, je rappelle les trois titres que vous nous avez présentés. Toine des Jongles de Philippe Lebrun, Arthurine Ombreval de Sarah Jam et Récit de vie romancé 2 de Christine Puel. Merci Coraline à la technique. Merci à tous nos auditeurs. Je vous rappelle que cette émission... vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes numériques. Au revoir à tous et bonne lecture.
Au revoir.